Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, on fait du tourisme et on se promène comme on aime, d'est en ouest. La ferme de la Baie au Saumon en Basse-Côte-Nord ouvre ses portes au public et les touristes acceptent volontiers l'invitation.
Il y a beaucoup de gens qui visitent la Saut de Labrador et plus en Basse-Côte maintenant et ils veulent faire des expériences comme ça.
La municipalité de Gaspé sur la côte atlantique du Québec en a marre des touristes qui salissent ses plages. La Sûreté du Québec a appelé en renfort pour distribuer des contraventions et évacuer les squats.
Quand le vivre et laisser vivre a un impact majeur sur l'environnement et un impact sur des familles qui veulent profiter de ces endroits-là, à un moment donné, on arrête ça. Les amendes commencent à 200 $ pièce.
Une quarantaine de pavillons et pays s'installent au Folklorama de Winnipeg. On célèbre le mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse.
Il y a plein de célébrations qui vont avoir lieu à travers la province.
Les plus sédentaires d'entre nous se gavent de terrasses. La halte N18 au bord de la rivière Saint-Charles de Québec donne un coup de pouce aux restaurateurs du secteur.
C'est vraiment d'encourager au maximum nos commerçants à vivre malgré les travaux.
Et les fantômes d'anciens locataires de la prison de Lorignal ont de la visite.
On se promène à la noirceur avec des lampes de poche. Pendant nos soirées, il y a plein de choses comme bizarres qui se passent. C'est incroyable des fois ce qu'on est capable de voir. Là.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale pour vous partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir, comme toujours, de vous accueillir. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. On sautille d'un bout à l'autre du pays aujourd'hui, effectuons de nombreuses haltes. On va faire un peu de tourisme maintenant, comme tout le monde, et on va faire une halte dans deux régions du Québec. L'une des destinations avoir retenu l'attention des voyageurs, eh bien, la côte nord du Québec cette année. La basse côte nord aussi, les touristes québécois et étrangers qui ont parfois dû changer leur fusil d'épaule et retrouver les eaux plus froides du Canada en ces temps troubles. Et le ministère du Tourisme du Québec et ses antennes régionales mettent le paquet en faisant la promotion de ces régions. La ferme de la Baie au Saumon profite de ce vent de dos. Cela fait maintenant plus d'un an que le bâtiment multifonctionnel de la ferme de la Baie au Saumon, situé sur la rivière Saint-Paul en Basse-Côte-Nord, a ouvert ses portes au public et déjà l'endroit est devenu un incontournable dans la région. À la fois lieu de rassemblement, espace événementiel, restaurants, cafés, centres d'activité et même scènes de festival. Cette ferme réinvente l'offre touristique locale, une expérience complète rare dans cette partie du Québec. Le circuit touristique baptisé Expédition 51, long de 1700 km lancé par Tourisme Côte-Nord, a véritablement propulsé la notoriété de cette région et de cet endroit. Et les affaires vont bien. Marie-Ève Dussablon est arrivée à Saint-Paul. Ça, c'est dans une baie calme, protégée par un chapelet d'îles, près de l'embouchure de cette rivière qui est reconnue, dit-on, mondialement pour sa pêche au saumon en Basse-Côte-Nord. La voici.
Ça fait maintenant plus d'un an que le bâtiment multifonctionnel de la ferme de la Baie au Saumon, située à Rivière-Saint-Paul, tout près de Blanc-Sablon, est ouvert au public. En plus d'offrir des tours, accueillir des événements, produire un festival de musique et activités comme des cours de yoga, ce bâtiment est aussi un restaurant où on peut déguster des mets et boire un bon café près de l'eau. Une offre exceptionnelle, rare sur la Basse-Côte puisqu'il s'en fait très peu. La ferme de la Baie au Saumon vient donc répondre à un besoin criant dans la région. Shailene Roberts, copropriétaire.
Ça, c'est une des grandes choses les locaux disent à nous. Donc, des visiteurs qui visitent pour faire comme un anniversaire, une petite célébration. On a des gens qui font comme son retraite, des visites ici pour aller souper, célébrer, choses comme ça. Et tout le monde dit, ça, c'est la loupe qui manque dans la région Labrador-Québec, ce coin ici.
L'entreprise a réussi à se faire connaître de bouche à oreille et grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est vraiment l'Expédition 51, un circuit d'environ 1700 km lancé par Tourisme Côte-Nord le long du 51e parallèle qui a tout changé.
On a presque tous nos touristes, tout le monde faire l'expédition 51 avec des marketing, avec Destination Labrador puis Tourisme Côte-Nord parce que tout le monde sait l'expédition, tout le monde veut faire toutes les petites visites qui sont indiquées dans les cartes, des choses comme ça. Et on voit chaque année presque doubler touristes.
La ferme de la baie au saumon a bénéficié du soutien de l'incubateur Accélérateur Nordique qui vise à propulser la croissance d'entreprises au nord du 49e parallèle. Et pour le moment, les affaires vont très bien. Quelques ajustements sont au menu, mais sans plus. Pour elle, des projets comme celui-ci aident grandement à faire vibrer la Basse-Côte et attirer les touristes. Il y a du potentiel pour en développer davantage.
Il y a beaucoup de gens qui visitent la Côte de Labrador et plus en Basse-Côte maintenant. Et ils veulent faire des expériences comme ça. Mais on est juste comme une entreprise, on ne peut pas faire tout. Et pour des gens qui passent plus de journées, comme une semaine, on a besoin comme plus des entreprises qui font des choses comme nous. C'est une bonne place pour visite, une bonne réputation avec tous les petits villages et tous les touristes qui visitent, dire que c'est une place pour ne pas manquer.
On va souhaiter une longue vie à ce genre d'initiative et encore plus dans la région. Ici Marie-Ève du Sablon pour l'IGL à Rivière-Saint-Paul.
On trouve parfois dans la littérature l'essence même des plus beaux paysages et bords de mer, comme ceux où Marie-Ève du Sablon justement travaille à faire des rencontres non seulement pour nous les décrire, mais pour parler à ceux et celles qui les habitent. Découvrir leurs enjeux, leur réalité, comme avec la poétesse Tania Monger qui va lire quelques-uns de ses textes au Centre communautaire du village de Tête-à-la-Baleine ainsi qu'au Festival de la Providence. Tania Monger qui est originaire de la région et de retour sur ce territoire qui l'habite. Pour Mme Monger, l'écriture est un geste de présence, une manière d'habiter pleinement l'instant, les lieux et les émotions. Ici, un extrait de cette conversation avec Tania Monger.
C'est beaucoup le rapport au temps, le rapport au territoire, vraiment la notion aussi de l'intime avec le territoire. Moi, quand je reviens ici, j'ai vraiment l'impression que j'ai une communication avec... je dis, bon, je fais le tour de l'île et je sens vraiment qu'il y a un dialogue interne qui m'inclut pas seulement moi. Là. Je sens que c'est pour ça que je me retrouve beaucoup souvent dans ce rapport-là avec la nature qui est souvent dans la littérature autochtone. Je pense à Joséphine Bacon, par exemple, qui va parler de... Elle a dit une phrase magnifique qui disait « Toundra me chuchote, te voilà ». Justement, j'écrivais des trucs quand je faisais le tour de l'île, quand je suis revenue, puis je me disais « Elle me dessine un chemin nouveau à chaque fois qui me mène invariablement à moi, qui me mène invariablement à elle. » Dans ce sens, je sens qu'il y a une intimité, en fait.
Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur fréquenceinfo.ca. On était au bord de l'eau, eh bien, on y reste. On met les voiles pour traverser le fleuve Saint-Laurent et on vire sur la côte atlantique du Québec pour se rendre à Gaspé. Gaspé, qui a depuis la pandémie été prise d'assaut par les touristes à la recherche d'une destination vacances et de plein air donnant sur l'eau. Mais voilà que cette popularité a des effets pervers. Camping illégal, détritus qui jonchent les plages, milieux sensibles détruits. Les résidents sont exaspérés par le comportement des étranges. Venus de loin gâcher leur plaisir estival, le problème est devenu si criant que la municipalité de Gaspé serre les dents et resserre les mesures de contrôle et de protection de ses plages. Gaspé s'était en 2020 doté de pouvoirs supplémentaires pour réglementer l'usage de ses berges et les protéger de l'érosion et des détritus. Les campeurs allaient même y faire leurs besoins, imaginez. Si Gaspé s'est ces 5 dernières années contenté d'une approche préventive et polie, ben là, on n'entend plus à rire. Les autorités municipales ont fait appel à la Sûreté du Québec pour intervenir auprès des contrevenants. Toby Germain.
Depuis le début de l'été, plusieurs citoyens dénoncent une utilisation abusive des lieux publics à la fois par des citoyens locaux et par des visiteurs. Plusieurs images de la plage de Douglastown ont notamment circulé sur les médias sociaux dans la dernière semaine. Le maire de Gaspé rappelle qu'à la suite des débordements de 2020, la municipalité s'est outillée pour pouvoir agir dans de telles situations. Pour Daniel Côté, il est essentiel de protéger les berges gaspésiennes.
C'est des milieux qui sont très fragiles. Les plages, les flèches de sable de Haldimand et Douglastown ont un rôle un peu de tampon entre la rivière Saint-Jean et le golfe Saint-Laurent. L'entre-deux plages est l'endroit où transite le saumon. Ça a un rôle exactement sur l'érosion des berges, etc. Le bois de plage a un rôle à jouer. Fait que les gens qui brûlent le bois de plage, c'est pas bon non plus. Les gens qui pigrassent les lignes des sables et qui font des stars de 4x4 et de VTT pour s'installer un espace de camping temporaire, c'est très néfaste pour la pérennité de ces milieux fragiles-là.
Un plan d'action conjoint avec la Sûreté du Québec et la Nation Mi'kmaq de Gaspésie a donc été mis en place afin de protéger les milieux côtiers fragiles. Daniel Côté se désole que la signalisation et les campagnes de sensibilisation n'aient pas été suffisantes pour éliminer les comportements répréhensibles.
C'est arrivé énormément en 2020. Depuis ce temps-là, il y a plein de pancartes, il y a plein d'affiches. Les règles du jeu, elles sont connues, elles sont claires et on avait une certaine marge, je dirais, de souplesse. On n'allait pas claquer ses doigts de n'importe qui, n'importe quand, parce qu'il y a un peu de vivre et laisser vivre là-dedans, sauf que quand le vivre et laisser vivre a un impact majeur sur l'environnement et un impact sur des familles qui veulent profiter de ces endroits-là, à un moment donné, on arrête ça puis on va repartir sur des nouvelles bases. Les amendes commencent à 200 $ pièce.
Daniel Côté rappelle que la plage est un milieu public où les usagers devraient pouvoir cohabiter dans un respect mutuel ainsi qu'en harmonie avec l'environnement.
C'est justement la ligne de passage entre le respect de l'environnement, le respect des droits des familles de profiter de ce site-là en toute quiétude, le respect des droits des pêcheurs et le respect des droits ancestraux. Il y a un fil de fer qui est très, très mince à respecter là-dedans. Mais là, le fil de fer n'a pas été respecté dans les derniers temps, d'où le fait qu'on arrive avec des mesures un peu plus coercitives. En fait, les mesures existaient déjà, mais on avait un peu de tolérance vis-à-vis de l'application des règles, sauf que la tolérance, les gens ont trop abusé, fait qu'on ne tolère plus, tout simplement.
Malgré la réglementation en vigueur, les plages de Gaspé sont encore listées comme des sites sur lesquels s'installer sur des pages de caravaning telles que Park for Free. Rappelons que le camping est interdit sur les plages de la municipalité, que la circulation en véhicule y est interdite sauf exception et que le principe sans trace devrait s'appliquer aussi aux plages. C'était Toby Germain à Gaspé pour une initiative de journalisme local.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Et ce n'est pas tout. Toby Germain, qui affectionne le bord de l'eau, et comme on le comprend, nous parle aussi sur fréquenceinfo.ca de ces nouveaux aménagements qui permettent aux amateurs de grands horizons de se rincer les yeux tranquillement au havre de pêche de Lance au Griffon, d'avoir plus de confort pour admirer le paysage, mais pas seulement, aussi pour lutter contre l'érosion des berges et contre les différents humanoïdes, campeurs, quadistes et automobilistes qui détruisent les milieux sensibles et naturels en leur roulant de Eh bien, la conseillère municipale du quartier, Charlie Maude Giroux-Bossé, est ici au micro de Toby Germain.
C'est un aménagement qui était prévu, ça fait déjà un petit moment, mais qui a dû être revu comme le terrain est côtier, puis dû à l'érosion des berges et la hausse des marées. Le but de l'aménagement, c'était de protéger le milieu fragile. On voyait là, que du côté droit, du havre, on commençait à perdre un peu de volume au niveau du sable. Je pense que la journée que nos équipes ont mis, ont été faire le parc, le soir même, il y avait des campeurs illégaux, là. C'est un endroit où on n'en veut pas parce que c'est super fragile. Puis la ville a mis vraiment une pancarte qui est grosse, là, elle est visible, là. Puis quand j'ai été faire de la sensibilisation, il y avait un gros Winnebago parqué directement devant la pancarte.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
puis, bien, il y a ceux et celles d'entre nous qui n'allons nulle part cet été, sauf pour effectuer quelques escapades et profiter des belles terrasses où l'on peut manger, boire, faire du people-watching tout l'été. Eh bien, il y a fort heureusement les terrasses situées sur les toits de la ville ou pas, dont celle du quartier Saint-Sauveur de Québec qui remplit cette fonction, en plus de permettre aux commerçants du secteur d'attirer une clientèle qui tente à le fuir en raison des travaux qui s'y déroulent depuis 2 ans maintenant. Les commerçants tentent de renverser la vapeur et se serrent les coudes avec l'aide de la Société de développement commercial, la SDC, qui a décidé d'ouvrir une terrasse éphémère du jeudi au dimanche pour ramener du monde dans le secteur. La terrasse s'appelle Halte N18 Must. Elle est située au bord de la rivière Saint-Charles et sur le stationnement du magasin La Galerie du Meuble. Ben, tout ça, ça donne un second souffle au restaurateur. Sur place, Alice Zanetta.
Oui. En 45 minutes, les comptoirs sont presque vides à l'heure du dîner.
On n'a plus rien.
Exact, on n'a plus rien.
C'est pour ça que je suis en train de texter mes cuisiniers. Là, je vais aller rechercher.
Ce midi, Juliette Albert Marchand de la boulangerie Louis Marchand et compagnie et Liane Guyenne, propriétaire du restaurant Shogun, partagent le menu. Les gyoza japonais côtoient les fougasses aux olives, une collaboration entre restauratrices qui amène à la création de nouveaux produits, comme cette limonade coco au citron que nous décrit Juliette Albert Marchand.
Moi, la boulangerie, je vends du limon coco et j'adore ça. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Là, c'est une limonade qui c'est pas pétillant, faite à base de coco. Et justement, on voulait la réinventer. Donc, Liane m'a préparé un sirop simple. Puis elle fait aussi, bien, je dis mariné, mais des citrons dans le sucre qu'elle fait congeler, là. Donc, il y a des citrons congelés sucrés qu'on met dedans avec de la glace, du sirop simple, et on rajoute le limon coco.
Tandis que les travaux se poursuivent pour une deuxième année de suite sur la rue Saint-Vallier-Ouest dans Saint-Sauveur, plusieurs commerces comme le Shogun doivent faire une croix sur leur terrasse. Alors, l'installation de la terrasse éphémère Halte N18 Must remonte le moral de la propriétaire Li Nguyen.
Ça nous permet d'avoir une bouffe d'air frais, sortir un petit peu, avoir une belle décor. Avec les travaux, c'est sûr, c'est pas accessible. Souvent, écoutez, notre achalandage diminue grandement. Puis ça nous aide à récupérer une petite partie. Puis aussi, ça fait du bien à la morale, ouais, surtout. Mais
un quotidien au cœur des chantiers qui n'est pas facile pour les commerçants. Abonde Juliette Albert Marchand de la boulangerie Louis Marchand et compagnie.
Des fois, il faut laisser nos portes fermées, en plus de ne pas avoir de terrasse pour la poussière et le bruit. Donc, tu sais, on a de l'air, on se sent embarricadé dans nos commerces.
Les restaurateurs du quartier Saint-Sauveur s'alternent sur cette terrasse éphémère en offrant des plats à moins de 10 $. La directrice générale de la Société de développement commercial, SDC Saint-Sauveur, Nadia Régaille-Gagnon, met la main à la pâte ce midi en aidant au service.
Il faut. À 11h30, à midi moins le quart, il n'y avait personne, donc on ne le sait pas.
C'est elle qui a eu l'idée de cette terrasse éphémère avec les galeries du meuble et Must qui offrent leur stationnement au bord de la rivière Saint-Charles. Madame Régaille-Gagnon affirme être sensible à la réalité des commerçants en période de travaux, alors que certains ont critiqué son organisme de ne pas en faire assez le printemps dernier.
C'est très difficile une période de travaux. Donc qu'il y ait eu ces deux commerçants qui ont exprimé des difficultés, il faut les entendre. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça nous a été adressé fin mai. On a pris vraiment en considération ce qui nous avait été demandé. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'encourager au maximum nos commerçants à vivre malgré les travaux en leur permettant d'avoir des initiatives comme nos événements. Donc tout le mois de juin, on a fait les apéros de Saint-Sauveur, on a fait le carnaval de Saint-Sauveur dans le parc du Rocher qui était un des derniers territoires qui nous restait sans vraiment excavation ni travaux. Et puis la halte qui représente aussi une initiative positive pour leur permettre de rencontrer aussi des nouvelles clientèles.
La SDC songe déjà à renouveler l'expérience de cette terrasse éphémère l'an prochain, alors que le chantier de réaménagement de 2 km se poursuivra en 2026. au grand bonheur de certains, comme Catherine, qui est venue avec ses deux enfants ce midi.
Ouais, c'est ça. C'est comme dans un contexte un peu différent de la rue Saint-Vallier. C'est un contexte plus paisible, j'aurais tendance à dire. C'est plus agréable. Il y a un espace pour que les enfants puissent jouer. C'est pas stressant pour si on les laisse se promener un peu et tout ça.
Selon la SDC, 2 à 3 commerces ont fermé depuis le début des travaux, tandis que 5 ont ouvert leurs portes. Une statistique semblable à d'autres rues commerçantes, toujours selon la SDC. Alice Anetta pour IJL à Québec.
On a le week-end dernier donné le coup d'envoi de la 54e édition du festival Folklorama de Winnipeg. Le Folklorama, qui se conclut le 16 août, accueille la participation de 43 pavillons représentant chacun des cultures ethniques diverses qui, pendant 2 semaines, vont partager leurs traditions culinaires, musicales et culturelles avec le public. Ici la directrice générale du Folklorama, Teresa Cotroneo, au micro de James Olivier à Winnipeg.
On a 43 pavillons qui participent, 20 lors de la première semaine et 23 lors de la deuxième semaine. Donc, vous allez avoir plein d'opportunités pour visiter ces différentes communautés, manger de la bonne nourriture, voir de superbes spectacles et vous immerser dans ces communautés. Cette année, nous avons 2 tout nouveaux pavillons. Mabuhay Philippine Pavilion, qui se déroule lors de la première semaine, et le Modern Chinese Pavilion, qui se déroule lors de la deuxième semaine. Donc, on est très excités de les accueillir au festival cette année. Le pavillon des Première Nation a désisté pour supporter leur communauté qui vient du Nord, qui ont été évacués. Puis on supporte à 100% leur décision. Puis on est très heureux de pouvoir leur supporter dans n'importe quelle façon qu'ils ont besoin lors des prochaines quelques semaines. On va les amener certains évacués dans différentes tournées. Donc on espère pouvoir les appuyer davantage.
Retournons sur la côte atlantique, si vous le voulez bien, où le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, ont lancé le mois du patrimoine acadien. Ça se passait le 31 juillet dernier à Chéticamp. Ce mois a pour thème cette année « Honorer le patrimoine acadien, façonner l'avenir », ceci pour souligner la force et la résilience des communautés acadiennes. Ici, Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, au micro de Daniel Aucoin.
Aujourd'hui, on est très excités d'être ici, moi, le premier ministre Tim Houston et le député local Kyle McCrory, pour lancer le mois du patrimoine acadien. C'est la deuxième année qu'on célèbre le mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse. C'était une question lancée par la Fédération acadienne. Est-ce qu'on peut célébrer la culture acadienne et le peuple acadien tout au long d'un mois, non seulement lors de la fête nationale de l'Acadie? Puis c'était une réponse très rapide de la part du premier ministre Houston. Absolument oui. Alors, l'année dernière, en marge du Congrès mondial acadien dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on a célébrer tout au long du mois le mois du patrimoine, et aujourd'hui on lance de nouveau ici à Chéticamp. Je crois qu'il tombe bien avec le festival Esquette qui débute aujourd'hui, puis il y a plein de célébrations qui vont avoir lieu à travers la province.
Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur fréquenceinfo.ca.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Et pour conclure cette édition de Point de vue, on va rejoindre la mémoire de ceux et celles qui ont pris de longues vacances, en tout inclus, jadis, à l'ancienne prison de L'Orignal, l'institution carcérale désaffectée qui souligne son bicentenaire cette année, entourée d'une enveloppe de mystère. L'ancienne prison de L'Orignal est la plus ancienne prison ontarienne. Elle est demeurée ouverte jusqu'en 1998 et elle a depuis été convertie pour y accueillir accueillir les curieux qui espèrent, pour certains, y apercevoir les fantômes du passé. Oui, car des visites spéciales de cellules hantées sont proposées au public. La guide Sarah Maud Sirois raconte que plusieurs visiteurs y ont rapporté avoir vécu des expériences étranges, entendu des bruits inexpliqués, ressenti des présences ou avoir entendu des portes qui claquent sans raison. Ces récits nourrissent le mystère qui entoure l'ancienne prison de l'Orignal. Gabriel Poulain s'y est risqué.
Dans l'Est ontarien, un bâtiment emblématique souffle cette année ses 200 bougies. L'ancienne prison de l'Orignal, la plus vieille de l'Ontario et la deuxième plus ancienne au Canada. Construite en 1825, cette prison de style néo-loyaliste a longtemps été le cœur du système judiciaire dans la région. Ce lieu est aussi chargé d'une histoire francophone forte. Jusqu'à sa fermeture, c'était le seul centre correctionnel francophone de la province. Depuis 2007, la prison est ouverte au public et attire chaque été de nombreux curieux. Pour souligner les 200 ans du bâtiment, une série d'activités spéciales est proposée, dont un événement phare qui revient cette année, Cellules hantées. Sarah Maud Sirois, guide à la prison, nous en parle.
Dans le fond, c'est un groupe de gens qui viennent à la prison et qui vont suivre un guide. Mais là, on se promène à la noirceur avec des lampes de poche. Et là, ben, on va parler des histoires inédites qu'on ne va pas souvent dire pendant nos visites régulières. Donc, souvent à propos des décès, des pendaisons, des enquêtes paranormales qui ont déjà eu lieu à la prison. Et après ça, les gens sont laissés avec des gadgets paranormales pour essayer de faire leur propre investigation et de communiquer avec les esprits qu'on a ici à la prison.
Ce genre d'événement n'est pas anodin. Depuis longtemps, des rumeurs entourent la prison. Apparitions, bruits étranges, phénomènes inexpliqués. Le lieu, qui a été le théâtre d'exécutions, de meurtres et même d'inhumations sur place, alimente l'imaginaire collectif.
On a énormément de groupes d'investigateurs qui viennent ici. Puis même nous autres, pendant nos soirées, il y a plein de choses comme bizarres qui se passent. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment de la soirée. Ça dépend du groupe de personnes. Ça se peut qu'il y ait quelques petites choses qui se passent. Si le groupe, c'est un peu plus des non-croyants. Puis après ça, si on a des gens qui sont full croyants, bien souvent les fantômes ou les esprits vont réagir plus à ça. Puis c'est là qu'on va avoir des comme soirées vraiment, c'est incroyable des fois ce qu'on est capable de voir. Là.
La prison propose aussi une série d'activités historiques tout au long de l'année pour célébrer cet anniversaire marquant. Des événements thématiques sont organisés chaque mois et la façade du bâtiment est illuminée chaque soir pour rappeler l'importance patrimoniale du lieu. Deux siècles après son ouverture, l'ancienne prison de l'Orignal continue donc de fasciner. À travers ses murs épais et ses cellules froides, c'est une partie de l'histoire ontarienne et franco-ontarienne qui continue de se raconter de jour comme de nuit. Gabriel Poulain, IJL Ottawa.
Alors voilà qui conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes que sont James Olivier, Marie-Ève Dussablon, Daniel Aucoin, Alice Zanetta, Gabriel Poulain et Toby Germain. Rédaction nationale, Julia Chénu et moi-même, Boris Chassagne, ici à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir tenu compagnie et à votre radio, ici présente, de nous donner une voix. Profitez bien du temps qui passe. À la semaine prochaine. Ciao!
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.